Comme ça nous arrive assez régulièrement cette semaine, Too Much accueille un invité musical d'ailleurs qui n'est pas tout à fait étranger à l'émission puisqu'il y a déjà une ou deux saisons de ça, je crois, on avait parlé du dernier album signé par le projet musical Samsaya. On est très très heureux d'accueillir aujourd'hui la tête pensante et le principal compositeur, on va dire, même s'il n'est pas seul dans l'aventure, mais bon, c'est quand même beaucoup beaucoup lui le moteur du groupe. On est ravis d'accueillir Mister Kronos, donc le maître d'œuvre de Samsaya. Comment vas-tu?
Ça va, enchanté d'être venu aussi.
Voilà. Tu étais déjà venu donc il y a deux ou trois saisons pour les sorties des Mémoires du Prophète,
oui.
Qui est le dernier album en date de Samsaya. Voilà. Alors Samsaya refait l'actualité là tout de suite. Alors pas dans l'immédiat pour un nouvel album, on va dire, avec des compositions originales, même si j'imagine que ça va pas tarder à venir. On va en parler tout à l'heure. Mais surtout pour une réédition d'une partie de votre back catalogue. Parce que, si je ne m'abuse, Les Mémoires du Prophète, c'est déjà le 8e ou 9e album, c'est ça ?
Un 9e si on compte le live.
Voilà. D'accord. Donc ça commence à faire une discographie relativement imposante. Alors avant de rentrer dans le détail peut-être de ces albums-là, et d'ailleurs on va écouter d'ailleurs évidemment à chaque fois un extrait de ces disques-là, est-ce que tu peux revenir sur la genèse de Samsaya et peut-être même remonter un tout petit peu avant, parce que toi initialement tu viens d'un projet qui était peut-être un peu plus axé métal extrême, qui s'appelait Chainsaw.
Exact. En fait, je viens même à la base de la scène un peu crossover des débuts des années 80.
Mm-hmm.
J'ai joué dans plusieurs groupes punk, metal, scène underground, on va dire, hein,
mm-hmm.
avant de créer Chainsaw, qui était un groupe de black metal, oui, symphonique un peu déjà,
ouais.
à l'époque.
À la Celtic Frost, pour le dire très vite.
Voilà, pour le dire très vite, à la Celtic Frost, exact, MTE, mélangé avec du basso lui et un peu d'autres choses, hein, finalement.
Mm-hmm.
Voilà, pour former finalement Samsaya en 93, début 94.
D'accord.
Pour faire finalement un groupe avec un mélange d'électronique, de dance et de métal gothique, voilà. En gros, pour faire un résumé un peu simpliste.
Alors justement, je voulais te poser ça comme question. Je vois assez bien quelles sont tes références dans l'univers du rock et du métal, parce que ça nous arrive d'échanger dessus quand on se croise. Mais je vois moins d'où tu viens au niveau de la part purement électronique ou synthétique de la musique. Quelles sont tes références dans le domaine ?
Alors, ça démarre avec Kraftwerk.
D'accord, ouais, donc vraiment les origines pour le coup.
Les origines, voilà. Et ensuite, bizarrement, je sais que c'est pas particulier, mais bon, il y a deux autres références en fait. Il y a la New Wave des années 80,
mm-hmm.
bon, ça c'est un petit peu logique à la limite. Kim Wilde, Yazoo,
mm-hmm.
toute cette scène-là. Et ensuite la scène Eurodance.
D'accord.
Donc la première, hein, c'est entre 92 et 94, Love Door. Donc on peut citer Snap, U96.
Ouais, d'accord, c'est très très gros groupe de l'époque là qui.
Tout à fait.
Ouais.
Qui était pour une fois, c'est mon avis, qui était pour une fois populaire et sophistiqué, ce qui est assez rare dans l'univers musical finalement, surtout depuis les années 2000. C'est plutôt.
Oui, la scène est complètement atomisée depuis. Mais c'est vrai qu'à l'époque il y avait c'était une vague absolument incroyable, cette Eurodance.
Parce qu'il y avait au milieu, il y avait en plus Enigma.
Oui.
Il y avait des groupes comme ça que j'adore, hein,
mm-hmm.
aussi. Il y avait aussi des groupes qui sont plus proches de ce que je fais aussi, mais que j'adore aussi, c'est-à-dire des groupes de fusion finalement. Le métal gothique arrivé, Biohazard avec le mélange de rap et de hardcore.
Ouais.
De Cro-Mags, on en parlait tout à l'heure,
Que
j'adore. Cro-Mags fait partie vraiment de mon jeu de guitare, j'espère. Enfin, j'espère que je me rapproche de leur jeu de guitare, de leur atmosphère. Voilà. Tout ça, Neurosis.
Neurosis, bien sûr.
Je sais qu'on a un peu les mêmes.
De ce point de vue-là, pas de doute.
Voilà, on a des points communs au niveau des goûts. Voilà, donc, voilà à peu près mes références. Tu vois, c'est vraiment les années 80, 70, 80, 90, quoi.
D'accord.
Voilà, c'est ce mélange des 30 ans, finalement, peut-être.
Alors, par rapport aux trois albums qui vont ressortir aujourd'hui, le premier, comment dire, chronologiquement, dans l'ordre chronologique de ces trois rééditions, c'est votre deuxième album, en fait, qui s'appelle
exact.
Changes. Tu peux nous en dire un mot de Changes ?
Alors, Changes, c'est un album... Alors, d'abord, on l'a ressorti parce que à l'époque, il n'est pas trop mal marché. On avait tout vendu, donc on n'en avait plus depuis un moment.
Mm-hmm.
Et puis bon, c'est pas non plus, c'était pas une urgence, mais en fait, c'était quand même un album très important dans la carrière de Samsaya, puisque C'est un album qui a été fait en urgence sur un 4 pistes à la base.
D'accord. Ah ouais. Roots.
Et voilà, il faudrait pas le dire, mais bon. Il était enregistré un après-midi, mais en fait, on l'a laissé celui-là, on l'a juste remasterisé et laissé comme ça, puisque à l'époque on tournait pas mal, mm-hmm. et c'est des chansons qu'on avait sur le bout des doigts. Donc quand on l'a enregistré finalement sur 4 pistes, oui. ça sonnait quand même. Voilà. Bon, il y a toujours des choses à refaire avec du recul, mais c'est un album assez important. Ouais. C'était l'album où finalement qui a marqué la, c'est le véritable album qui a marqué la genèse de et le style de Samsaya.
De Samsaya. Donc c'est là on est en 97, hein, c'est ça.
On est en 97, mais les chansons datent de 95.
D'accord, d'accord. Donc des compos que vous aviez eu le temps de roder, comme tu dis.
Voilà, c'est-à-dire c'est des compos que j'avais faites. Là, c'est plutôt moi qui ai composé déjà depuis longtemps. Enfin, j'avais fait tout l'album. Et c'est des chansons que j'avais fait vraiment d'un trait comme ça. Voilà,
c'est une période de grande inspiration, peut-être.
C'est ça, d'inspiration. Et puis de nos limites, un petit peu, tu vois, dans la durée des titres. Bon, on n'a pas trop changé non plus, hein, mais voilà. Mais c'est l'époque qui veut ça aussi. Et alors que le premier, on ne l'a pas ressorti. Pourquoi on a commencé par le second? Parce que le premier, on estime qu'il était bien comme il est pour l'instant.
Ouais, voilà. D'accord. Il est toujours trouvable de toute façon
aussi,
pour les fans.
Il y a surtout ça aussi.
Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le morceau qu'on va écouter, qui est extrait de Changes, qu'on va écouter tout de suite, qui s'appelle Get Up in Trance?
Alors c'est une chanson qui finissait toujours nos concerts.
D'accord.
C'est une des chansons, une des plus extrêmes, on va dire, une des plus rapides et agressives que j'ai créé et composé. Et c'est une chanson qui, comment dire, qui représente le côté peut-être plus urbain de... du groupe.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Get Up in Trance.
Alors c'est parti tout de suite pour Get Up in Trance.
Yeah.
Everybody.
Get Up in Trance, donc c'est la troisième piste du deuxième album de Samsaya qui s'appelle Changes, donc c'est chronologiquement le premier des albums que vous avez réédité. À ce stade de la carrière de Samsaya, comment tu définis ton rôle au sein du groupe? Parce que tu fais beaucoup de choses au sein du groupe, de quoi tu t'occupes exactement à ce moment-là?
Alors je m'occupe déjà de tout ce qui est composition, création et texte. Et ensuite, une partie du mixage, beaucoup de mixage, et la production surtout.
D'accord.
Voilà. Et tout ce qui est derrière le business. Hein. Donc les interviews. Le
merchandising éventuel.
Ouais, ouais, merchandising, ça. Exactement. Mon collègue, Charlie B., qui maintenant est dans le groupe depuis 21 ans, bientôt 22 déjà. Hein. Donc il fait partie intégrante du groupe. J'envisage plus du tout Samsaya sans lui. Sans lui, ça c'est sûr. Lui, il fait tout ce qui est plutôt arrangement. C'est un petit peu aussi mon miroir. C'est un petit peu la deuxième oreille dont j'ai besoin aussi.
Ouais,
voilà, il a autant son mot à dire que moi. Et lui fait les arrangements, une partie aussi du mixage. Et lui fait l'enregistrement surtout. C'est-à-dire, quand moi j'enregistre les chants, les guitares, tout ça, c'est lui qui est derrière.
C'est lui qui a la console.
Alors moi ça m'arrive de l'être aussi quand c'est lui qui enregistre. Mais bon, voilà, on partage ce travail à deux.
D'accord.
Donc il a un rôle plus aussi sur les sites, les choses comme ça, quoi. Et tout ce qui est plutôt informatique.
Il s'y connaît plus en informatique que toi.
Oui. Et aussi, c'est plus aussi son truc que son domaine. Je sais qu'il le fait très bien. Donc
tu lui fais confiance.
Exactement.
Y a un poste particulier au sein de Samsaya. Alors, je crois que vous avez. Ça a bougé dans ton approche, peut-être par obligation aussi. C'est le rôle de la batterie, des percussions. Vous avez eu des batteurs live?
Exact.
Sur les disques, c'est déjà arrivé que des batteurs jouent live ou c'est uniquement des programmations?
Ah non, il y a des deux. Il y a les deux. C'est-à-dire ce qui fait pas les premiers. À partir du cinquième, je crois. À partir du quatrième, du cinquième, on a opté pour cette option-là et on continue à le faire parce que c'est une option qui me plaît. C'est le mélange en fait de son électronique purement boîte là, par contre martial. Avec un côté humain, d'un batteur ou des percussions. Les percussions sont pas programmées.
Jouer live, là.
Jouer live, voilà. Donc, c'est vraiment ce mélange. On essaye de faire ce dosage de 50-50 ou 70-30. Maintenant, c'est plus 70-30, 70 humains et 30 mécaniques, qui font que c'est un dosage qui fait aussi l'atmosphère et le grain du groupe. Voilà. C'est-à-dire que les chansons. En plus, ce qui est bizarre, c'est que. On a beau faire des chansons, comme tu le sais, on a un éventail assez large. Même quand on fait dans le reggae, ça arrive aussi. Où il y a des grattages reggae en guitare, tout ça. Même là, ça sonne pas reggae, ça sonne Samsaya. C'est un avantage et un inconvénient, parce que si un jour on veut s'adapter au son radio, enfin on le fera pas, mais si on veut vraiment s'adapter au son d'aujourd'hui, R&B ou comme ça, ça sonnerait pas de toute façon R&B. Voilà.
Mais c'est pas dans vos projets immédiats.
Je crois pas. Non, ce sera pas dans mes projets du tout d'ailleurs, parce que si j'aime beaucoup les chansons populaires, les vrais tubes entre guillemets. Mais là, aujourd'hui, c'est quand même la misère. Ça, je le dis parce que c'est terrible. Plus personne même ose le dire, je crois, mais.
C'est pas une bonne période, on peut le dire.
Voilà, on peut le dire, c'est pas une bonne période du tout artistique. Et les seules choses qui sont. Il y a des choses bien qui sortent, mais c'est toujours les anciens qui. Avec leurs nouveaux albums. Quoi.
Oui, voilà. c'est un peu ça, malheureusement. Alors, comme on se le disait tout à l'heure hors micro, on réécoute des vieux scuds des années 90 et on se rend compte que c'était assez formidable.
Exact, et que c'était pas si vieux, finalement, c'est toujours moderne.
Absolument, et que c'est toujours moderne. Ça garde sa modernité.
Donc ça pose pas de problème pour nous non plus, de toute façon.
Tout à fait. Alors, on va parler maintenant de l'album suivant, en fait, dans l'ordre chronologique et dans l'ordre des rééditions aussi. Il y a baptisé 3, donc c'est le troisième album tout confondu, on va dire, de Samsaya, et il s'appelle La Sadoumania. Tu peux nous dire quelque chose sur ce titre un peu zarbi?
Exact. Je comprends qu'il est zarbi, c'est plus ou moins une création de ma part. Ça aussi. C'était le titre d'une tribu qu'on avait dans les années 90, qui était une espèce de, pas une association, c'était c'était un petit peu symbolique, c'était l'esprit tribu aussi des années 90, revival un peu des années 70, tout ça. Ça nous permettait de faire des concerts en plein air avec d'autres projets à côté. Il y avait un côté un petit peu mystique, pas un peu, même d'ailleurs mystique religieux, voire un peu, mais religieux dans le sens personnel, on va dire.
Oui, sans religion organisée derrière.
Non, du tout, du tout. Bien sûr. Donc j'avais mis ce titre parce que je trouvais que c'était. Et puis c'est un hymne aussi qu'on joue sur scène. Bref, et le 3, parce que bon, surtout, c'est le troisième album, mais aussi parce que 3, c'est le symbole de plein de choses, le triangle,
la trinité.
La trinité, voilà, c'est tout ça. Donc, c'est tout un symbole, comme c'est un album où je parle aussi beaucoup de d'aliens, d'ovnis, de Men in Black.
Mais je voulais te poser la question, justement.
Voilà, tu vois, le symbole du triangle, donc c'est un album très, très. Comment dire, très moderne dans le concept finalement. Parce que aujourd'hui c'est la mode, tu vois. Cet album il a presque 20 ans, donc c'est le troisième album. Et en fait, à l'époque, donc les chansons sont avec des structures assez complexes. Elles font souvent entre 6 et 8 minutes. C'est un album très varié aussi. Ça parle aussi d'ailleurs, ça parle aussi. Il y a une chanson avec ma fille, ça parle beaucoup de famille. Donc voilà, la Sanomania, le 3, le côté familial, les parents, l'enfant, tu vois. C'est tout un truc assez poussé. Voilà.
D'accord. Alors, tu peux nous dire quelque chose de plus précis, peut-être sur le morceau qu'on va écouter, extrait de 3, la Sadoumania, donc, qui s'appelle Dance X. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce morceau-là ?
Oui, c'est le morceau le plus dance, pour ton nom, le plus dance, et peut-être entre guillemets, le plus commercial de l'album. C'est un album qui parle d'amour, là. Tu vois, c'est une chanson qui parle d'amour.
D'accord.
Donc, une chanson assez efficace. Qui est passé à l'époque dans des boîtes de nuit quand même en Espagne, tu vois.
D'accord.
Donc elle devait être pas trop mal, parce que les Espagnols, pour danser à l'époque, ils étaient assez bons. Voilà.
Ils le sont toujours.
Ils le sont toujours, d'ailleurs, ouais.
C'est parti tout de suite pour Club X, donc extrait du troisième album de Sam Saya, 3, la Sadoumania. We'll be right back. Dance X, donc extrait du troisième album de Samsaya. Alors là, on va faire un petit saut dans le temps, puisque en fait, au niveau des rééditions, là, on passe tout de suite au sixième album, hein, si je ne m'abuse.
Exact.
Qui s'appelle, alors le titre il déchire, hein. L'album s'appelle Super Tanker 666, ça c'est du titre.
Merci.
Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce disque-là?
Alors, ça c'est le disque du retour un peu
aux affaires.
Aux sources rock, ouais, metal, ouais. C'est-à-dire. Si tu veux, après le troisième, il y avait Dance Metal qui a été l'album qui a le plus marché chez nous, mais qui était le plus aussi le plus dans le
plus électro, on va
voilà,
dire.
Voilà, le plus électro, on va dire ça. Suivi de The Art of Dance Metal qui était la suite un peu. Et ensuite, bon, on avait fait un petit peu le tour, on avait fait un petit peu le tour de tout ça, donc on est revenu aux sources, ouais, metal goth. Là, on est dans le metal gothique lourd. Toujours varié, hein, mais avec un côté électro quand même. Mais voilà, donc c'est le sixième album, donc 666. Hein.
Ouais.
On est revenu au côté sombre là aussi.
Oui, voilà, rien que dans les références niveau imagerie, etc.
Voilà.
C'est tout à fait ça.
Super tanker, parce que je suis un fan des gros bateaux énormes que l'être. Je suis plus fan de ce que l'être humain fait de grand et de monstrueux. Qu'un voilier ou une barque, tu vois.
D'accord, donc que ce soit massif et heavy, quoi.
Voilà, mais pas obligatoirement, mais en tout cas, la Clio électrique me fait pas rêver, quoi,
ouais,
tu vois.
Ouais, ouais. Bon, voilà qui dénote dans le discours actuel.
Voilà, exactement.
Alors, puisqu'on en est aux thématiques et aux paroles, bon, on l'a signalé tout à l'heure au sujet de l'album précédent, mais j'imagine que ça doit venir aussi sur Super Tanker 666. Je sais que ça revient ensuite sur les albums suivants, dont y compris le dernier, Les Mémoires du Prophète. Il y a un truc qui est très marquant. D'ailleurs, t'es pas le seul musicien qui le fait, mais en fait, c'est relativement rare quand même. C'est cette passion pour l'ufologie. Les hommes en noir, les fameux Men in Black, etc. Ça a nourri beaucoup de tes morceaux, non, ça? Tu peux en dire un peu plus?
Oui, ben c'est simplement, enfin, je peux pas en dire beaucoup plus parce que c'est pas non plus que le sujet, mais
ouais.
Ça fait partie en tout cas de, c'est pas ni Carnaval, ni des légendes,
ouais,
ni une mode.
Mmh.
Si je le fais, c'est parce que ma vie, voilà, ça.
C'est un intérêt réel, motivé, on va dire.
Tout à fait, avec des témoignages qui peuvent être réels ou pas. Enfin, chacun, voilà. Mais c'est quelque chose, oui, qui est sérieux, enfin que
tu prends très sérieusement.
Que je prends très sérieusement pour des raisons personnelles aussi. Voilà.
D'accord, ok. Le morceau qu'on va écouter, qui est extrait de Super Tanker 666, c'est une reprise. Et une reprise d'un morceau qui est plutôt fameux.
Il fallait avoir du courage.
C'est Another Brick in the Wall de Pink Floyd. Ouais. Parle-moi un peu de ton rapport à ce morceau-là ou cet album-là des Pink Floyd.
Alors c'est simplement, eh ben écoute, moi je suis pas spécialement fan de cet album-là d'ailleurs. Mm-hmm. J'aime les, bon bien sûr je respecte les Pink Floyd, je les aime, mais pas plus que ça en fait. C'est simplement que la chanson je l'aimais et que je la jouais souvent et je m'apercevais en fait quand je la jouais, je me suis aperçu quand je la jouais que en fait elles sont assez personnelles, voilà. Et puis voilà quoi, j'en ai discuté avec mon collègue Charlie B. Il m'a dit pourquoi pas, et puis on a foncé, puis à l'époque on l'a vu en live déjà.
D'accord.
Et comme on voyait qu'elle sonnait pas mal et que les gens s'apaisaient et puis pas mal au vent, mais du coup on l'a enregistré à l'époque. Et finalement, elle est bien, je trouve qu'elle a son rôle dans l'album, même au niveau du texte déjà.
Oui, ok, voilà. D'accord. Elle a sa cohérence dans le tout global de l'album. Quoi.
Complet, voilà, le côté un petit peu du des gens un petit peu à part, des gens qui sortent un petit peu du politiquement correct aussi, c'est ça, si un petit peu
tout à fait, absolument. Hein, elle est assez radicale d'un point de vue politique
aussi,
quoi.
Complet, voilà, exactement. Donc il y a ce côté là aussi derrière, et puis il y a aussi c'est Roger Waters qui à l'époque, il y a tout ça aussi qui est important, voilà. C'était Glimour, peut-être on l'aurait pas fait, toi, enfin,
ouais,
voilà.
D'accord,
donc voilà,
on va écouter tout de suite cette reprise, cette cover, comme on dit, de Pink Floyd, Another Brick in the Wall, mais par Samsaya. Another Brick in the Wall, donc reprise de Pink Floyd par Sam Saya, donc c'est sur Super Tanker 666 qui est votre sixième disque, comme le nom l'indique et comme tu l'as signalé tout à l'heure, qui date de 2005. Bon, est-ce que, voilà, pour conclure, est-ce que vous avez prévu d'autres rééditions ultérieures de votre back catalogue, ou pour l'instant vous allez rester là-dessus parce que c'était surtout sur cela que vous vouliez revenir?
C'est, mais t'as bien résumé. C'est surtout cela, c'était surtout sur ces trois-là, puisque on avait plus de stock. Mm-hmm. Et puis en plus, c'était des albums importants quand même dans, ouais, dans notre petite carrière. Et là, non, là, on est sur le futur album déjà.
J'allais te poser la question.
Voilà, qui a bien avancé. Qui, bon, je vais pas te dire le titre, ça porte malheur, on va pas trop en parler.
Oui, mais, c'est un peu tôt peut-être.
Ouais, mais enfin, c'est d'ici un an. Hein,
ah, d'accord, ça va.
Il était pas prévu d'ici aussi rapide, mais on avait 50 chansons. Mm-hmm. Dont 35 finis d'enregistrer, le problème il est là quoi. Donc on,
beaucoup de matière là pour le coup.
On a beaucoup de matière et le problème on a toujours trop de matière. Mm. On n'a jamais assez puisqu'on sélectionne, mais bon. Donc du coup carrément bon, on a repris ce qu'on appelle les prémix, ou les maquettes comme mm-hmm. tu veux. Enfin c'est plus que des maquettes parce que hein, c'était déjà à l'état final. On les a reprises pour en faire des arrangements qui vont être très poussés, c'est-à-dire on va faire venir des cuivres, on va mm-hmm. faire des cuivres, on va faire
d'accord.
Ouais, des vrais violons, des mm. là ça va, des chœurs. De...
C'est une première pour Sam Saya ce genre d'arrangement.
Au niveau, disons, non, parce que des cuivres j'en ai déjà. Hein,
d'accord.
On met toujours plus ou moins des, enfin pas systématique, mais mm. mais là ça va être plus poussé encore.
Ouais, voilà. D'accord.
Ça va être plus poussé et ça sera peut-être un peu plus entre guillemets pop mm-hmm. dans le rendu final. C'est-à-dire il y aura moins peut-être de bah, je vais descendre moins dans les graves, je vais monter moins dans les... Voilà,
mmh, tu vois, d'accord,
ça,
d'accord.
On va essayer de faire quelque chose. On va essayer de revenir un petit peu au-devant de la scène mmh. avec des concerts, tout ça. Donc on va être obligé un petit peu aussi de... Enfin obligé, on le sent aussi comme ça, mais on va revenir à quelque chose qui va être un petit peu un résumé d'un ensemble, en fait.
D'accord, voilà. D'accord. Donc ça, en gros, on peut s'attendre à un nouvel album de Sam Saya d'ici un an, grosso modo, quoi.
C'est ça.
Bon, on sera ravi de t'accueillir ici, en tout cas, Mister Chronos, comme
mais
d'habitude.
Je serai ravi aussi, Peyo. Je te remercie beaucoup, en tout cas, de ton émission.
Pas de problème.
J'aime beaucoup.
Merci beaucoup. Et à très bientôt, donc.
À très bientôt.
À bientôt.
Ciao.